Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Colo, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Dans ce podcast, nous ferons ensemble un petit tour de la gastronomie française en parlant de ce qui est dans notre assiette, mais aussi et surtout de ce qui se trouve dans notre verre. Mets traditionnels, boissons ancestrales et bonnes adresses, c'est le podcast Dose de France. Pour trouver des boissons de qualité, artisanales et traditionnelles, rendez-vous sur demichelot.com. Petit rappel nécessaire que je n'avais pas fait au premier épisode, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà. Non, parce que la dernière fois, j'ai fait 45 minutes en continu avec des recommandations et tout, et j'avais oublié de vous dire que boire de l'alcool, c'est mal. Il ne faut pas en boire. Et si vous en buvez, tels les démons que vous êtes, il faut le faire avec modération. Hop, je rappelle encore une fois, j'en ferai comme ça de temps en temps un peu partout pour me protéger, pour me construire une armure face aux attaques juridiques. Je bois un petit peu d'eau, hein, parce que la dernière fois, j'avais aussi oublié de me prendre de l'eau. Et en fait, parler en continu tout seul face à un mur blanc, au-delà de rendre fou, eh ben, ça assèche la gorge. Alors, je ne sais pas si vous entendez un petit bruit dehors. En fait, je vis à côté d'avenue principale. Et y a beaucoup de voitures qui passent. En plus, j'ai un hôpital pas loin, donc ça fait un petit peu de bruit. J'ai écouté vos remarques par rapport au premier épisode. J'ai changé de chaise pour essayer d'avoir moins de bruit parasite, comme je viens de le faire là. J'ai mis le téléphone en mode avion pour plus qu'il y ait d'appels furtifs de gens à qui je dois de l'argent. Et par contre, je ne peux pas faire disparaître les voitures de la route, donc peut-être que j'essaierai d'aller dans une autre pièce à un moment. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà. Alors, j'ai pas fait de jingle non plus pour le moment, pour une simple et bonne raison qui est que au début j'avais prévu de prendre des chansons françaises qui parlent un peu d'apéro, de pique-nique, machin, enfin en lien avec le thème du podcast quoi. Mais à un moment, juste avant de faire les montages, je me suis dit, mais Johan, peut-être qu'il y a des droits d'auteur et que tu vas devoir. Enfin. Je vais pas devoir payer parce que mais que mon podcast se fasse striker ou retombe un petit peu dans les limbes des classements des applications. Donc pour l'instant, j'ai pas pris trop de décisions de comment j'allais faire, mais je ferai quelque chose. Soyez-en sûrs. Comme la semaine dernière, même structure. Au début, on va parler un petit peu d'actualité, de ce qui se passe dans ma vie, mais surtout autour de mon entreprise. Demichelot.com, comme je l'avais dit en introduction, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ensuite, trois recommandations de bouteilles de la semaine qu'il faudra boire avec modération. Ouais, j'arrête. Et quatre culinaires de la semaine. On débriefera celle de la semaine dernière en espérant que vous l'ayez respectée. Vous êtes à peu près 400 ou 500 à avoir écouté le premier épisode. Déjà, je vous en remercie. Donc, j'espère que parmi vous, certains ont fait la quête culinaire de la semaine. Et enfin, recommandations de restaurants comme la semaine dernière. Et j'ai rajouté une dernière petite rubrique qui sont vos questions, où je mets en story Instagram. Alors, j'ai mis en story Instagram, si certains avaient des questions à me poser pour le podcast, il fallait répondre dans l'encart. Donc, j'en ai pris deux des questions. Et surtout, n'hésitez pas, ce n'est pas forcément que des questions autour de ma boîte ou de l'alcool, ou de la bouffe de manière générale, mais vous pouvez poser des questions sur moi, enfin, n'importe quel type de questions, j'en sélectionnerai quelques-unes. Voilà. Bon, écoutez, on commence tout de suite, du coup, par la première rubrique. Je vous propose de faire un petit bilan de la nouvelle sortie Maquisard qu'il y a eu. Donc, c'était la semaine dernière. On a sorti ça le 5 mars. Donc, c'était Maquisard en collaboration avec la distillerie de Calvados Roger Groux, sur un embouteillage single casque brut de fût d'un Calvados de 33 ans. Donc les préventes se sont terminées le 11 à minuit, et franchement, ça a plutôt bien fonctionné, je suis assez content. Sachez que désormais, c'est complètement indisponible à la vente, hein, il n'y en aura plus jamais, donc il fallait acheter dans les 7 jours. Mais je suis très content, c'est une distillerie qui n'est pas forcément connu d'un large public, c'est assez présent dans des restaurants et tout, mais par les particuliers, pas forcément tant que ça. C'est une très belle maison. Les gens qui s'en occupent sont vraiment des belles personnes. C'est fait de manière traditionnelle, distillé au feu de bois. Enfin, il y a beaucoup de travail derrière. C'est une assez grande exploitation sur plusieurs générations. Donc, je suis très fier d'avoir sorti un tel jus avec eux. Un Calvat de 33 ans, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Mais ça m'a aussi fait repenser, recalibrer mon business autour de Maquisard, parce que en fait, je pense que aller chercher des jus très rares et de fait très chers, surtout dans des catégories d'alcool comme le Calva, le Cognac ou l'Armagnac, c'est bien pour moi qui suis un geek des spiritueux, mais je pense pas que ça soit forcément ce qu'attendent les gens qui me suivent, parce que, en tout cas qui sont pas forcément très initiés dans le milieu. Tout simplement parce que c'est une prise de risque, en fait, d'acheter une telle bouteille. Il n'y a pas tout le monde qui a 125 euros à claquer dans 50 centilitres pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ce que je peux vraiment tout à fait entendre. Alors, je pense que c'est moins vrai dans le whisky et le rhum, qui sont des catégories où il y a beaucoup plus de monde intéressé. Mais concernant le Calvados, le Cognac et l'Armagnac, alors certes, j'ai envie de pousser de mon poids pour les remettre en avant, mais le fait est que ce sont des alcools qui sont infiniment moins populaires, et donc c'est un petit peu compliqué. Alors la décision que j'ai prise, ce sera de proposer peut-être des choses beaucoup plus accessibles en termes de prix, qui restent des sélections single cask brut de fût, parce que ça c'est donc single cask, ça veut dire un seul fût, et brut de fût ça veut dire embouteillé au degré naturel de fût, donc pas réduit à l'eau. C'est pour ça que vous avez des pourcentages variables sur les bouteilles Maquisard que je fais, et c'est aussi tout l'intérêt d'un embouteilleur indépendant de sélectionner un seul fût et ensuite de ne pas modifier son identité. Donc voilà, je pense que j'essaierai de faire des choses qui sont un peu plus accessibles. Alors, la prochaine bouteille, ce sera un whisky. Ça sera un peu plus accessible que ce Calvados 33 ans, mais ça ne sera pas non plus beaucoup moins cher. Je pense qu'on tournera peut-être un peu plus autour des 100 euros, quelque chose comme ça. Le prix n'est pas fixé encore, mais normalement, ça sera autour des 100 euros. Et je vous en dirai plus dans le podcast de la semaine prochaine, parce qu'on n'a pas tout validé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un whisky. Et qu'il y aura normalement plus de bouteilles. Enfin, je vais pas m'avancer, ouais, parce que il faut encore valider. Mais il y aura techniquement plus de bouteilles. Ça sera un peu plus jeune, un peu moins cher, et ce sera un whisky. Voilà, voilà, whisky français. Je vous en dirai plus normalement dans le podcast de la semaine prochaine, puisque j'aurai des infos définitives en fait. Donc, c'est un petit peu le bilan que je fais de ce nouveau Maquisard qui est sorti. Donc, c'était le quatrième. Il faut que je propose, que je continue ce rôle de personne qui déniche des jus sympas, qui vous présente des distilleries qui sont vraiment cool et qui travaillent bien, mais peut-être sur du moins haut de gamme. Limite, aller chercher parfois des trucs un peu plus farfelus, mais peut-être du moins haut de gamme, tout simplement pour pouvoir respecter une grille de prix qui correspond un peu mieux à l'audience que je peux avoir. Voilà, tout simplement. Je rebois un petit peu d'eau, hein, parce que ça fait la bouche sèche de parler tout seul. Ah, je vous jure, je bois de l'eau et je bois pas des spiritueux qu'on pourrait retrouver sur demichelot.com. nouvelle actu, ce week-end, je participe à un salon des spiritueux à Limoges qui est organisé par le propriétaire du Intercave de Limoges qui est un super gars, Vincent. Si vous habitez pas loin de Limoges, je vous encourage vraiment à aller dans son Intercave pour acheter vos spiritueux. Alors le vin, moi je sais pas, comme j'achète pas de vin, ou rarement du vin quand je les achète, souvent je les achète au domaine. Je sais pas trop, mais quand je vois sa qualité de sélection spiritueux, j'imagine que pour tout le reste, c'est du même niveau. C'est un gars qui est vraiment hyper pointu. Vous pouvez parler avec lui pendant des heures de spi. Il a vraiment une très large sélection. Il déniche beaucoup de nouveautés. Et surtout, dans mon exemple à moi, à peine je me suis lancé, il soutient direct en achetant les produits. Donc ça fait plaisir. Et donc, quand il nous a proposé d'avoir un stand à son salon, on a directement accepté. Je suis très heureux d'y participer. En plus, certains d'entre vous le savent peut-être, mais ma famille est originaire de Corrèze. Bon, Limoges, c'est pas en Corrèze, mais c'est dans le Limousin. Et la Corrèze, c'est dans le Limousin, c'est pas très loin. Et puis moi, quand j'étais petit, j'allais à la gare de Limoges pour aller en Corrèze. Je suis vraiment très content d'y aller. En plus, c'est mon anniversaire ce week-end. Donc, je vais faire mon anniversaire à Limoges. Et ça, c'est magnifique. Donc, si vous n'êtes pas loin, n'hésitez vraiment pas à venir nous voir à Limoges. Vous pourrez goûter des maquisards et les liqueurs de Michelot. On n'aura pas le reste de notre gamme de ce qu'on distribue maintenant, parce que ça a été validé il y a plus longtemps des produits qu'on avait le droit de ramener. Il y aura vraiment pas mal de stands. Je crois qu'il y a 500 références quand même de produits pour un salon qui est organisé par un caviste. C'est vraiment bien. Et en plus, il y a des gens pointus. Il y a quand même, je crois, la maison du whisky qui se déplace. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sérieux et je vous encourage à venir. Comme vous me demandez souvent comment commencer dans le monde des spiritueux, parce que c'est des produits qui coûtent assez cher et tout, les salons, c'est vraiment une super porte d'entrée, puisque vous... Alors là, je ne sais pas comment ça se passe pour le client, est-ce qu'il paye pour venir ou pas. Mais en tout cas, vous payez un prix qui est dérisoire par rapport à tout ce que vous pouvez boire, et vous pouvez en goûter vraiment beaucoup. En plus, comme il y a des crachoirs partout, que c'est hyper bien organisé, vous pouvez goûter énormément de spi, parler face aux producteurs, ou en tout cas des gens qui sont très calés. Sur les bouteilles qui sont devant eux, posez toutes vos questions et comme ça vous fait vraiment progresser très très vite. Franchement, les salons, c'est une hyper bonne porte d'entrée pour progresser et découvrir les spiritueux. Là, en plus, tu as une large palette puisqu'il y aura des whisky, des rhums, des liqueurs, des embouteilleurs indépendants. Donc, c'est vraiment des trucs très pointus. Vous allez pouvoir goûter des trucs que vous retrouverez nulle part ailleurs. Donc, vraiment, ce salon à Limoges, si vous êtes dans le coin, je vous encourage à venir. Parce que c'est vraiment un super salon. Voilà, petite minute promo pour ce salon faite et j'espère que je vous verrai nombreux là-bas. Et ça me fait toujours, moi, personnellement, plaisir de rencontrer des gens qui me suivent ou qui sont clients de nos marques. Parce que mettre des visages sur des messages que tu reçois sur Instagram et tout, c'est vraiment sympa. Et c'est une bonne partie de ce métier aussi, puisqu'on est quand même un métier de contact. Et ça fait plaisir de rencontrer les gens et de discuter avec eux. Et dernier point que je voulais évoquer avec vous dans cette rubrique, c'était le volet distribution. Alors, je vous en parlais la semaine dernière, mais demichelot.com se transforme désormais en place de distribution. Alors, c'est plutôt une plateforme de regroupement, de mise en avant de spi et de distillerie française que je veux faire. Mais je dis distribution par abus de langage, tout simplement parce que les professionnels, donc si vous m'écoutez, que vous êtes caviste, barman, restaurateur, hôtelier, traiteur, que sais-je, vous pouvez aussi acheter les produits des autres distilleries que je vais mettre sur mon site internet. Mais ils sont aussi accessibles aux particuliers. Donc c'est pour ça que je ne suis pas juste un caviste en ligne, mais un grossiste, un revendeur. Et depuis le podcast de la semaine dernière, où je vous parlais de pourquoi on allait faire de la distribution, eh ben on a notre première distillerie partenaire qui nous a envoyé ces bouteilles et qui sont désormais achetables sur le site. Là, vous pouvez aller sur demichelot.com et les trouver. Donc, c'est la distillerie Bon Valais qui se situe en Champagne, enfin, dans la région où on produit du champagne. Et j'ai sélectionné chez eux, parce que je ne prends pas toute leur gamme. Malgré le fait que beaucoup de choses soient bonnes, mais j'avais pas envie de faire des doublons. Enfin bref, ouais, tambouille interne, mais j'ai pris deux produits chez eux. Je venais surtout pour le premier dont je vais vous parler, qui est un soju. Donc vous allez me dire, ouais, Johan, les alcools français, blablabla, et tu prends un truc qui s'appelle soju, c'est un alcool japonais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, j'ai pas les neurones qui ont grillé, je suis pas parti en couille, vous inquiétez pas. Je trouvais ce produit intéressant, tout simplement parce que donc, le soju est un alcool traditionnel japonais, qui est un alcool distillé. Et je sais qu'au Japon, il existe avec plusieurs types de matières premières. Donc souvent, le soju est un alcool fait à base de céréales ou... Donc c'est un petit peu comme du whisky non vieilli, si vous voulez, ou de lit de saké. Donc en gros, avec du riz grossièrement, on fait du saké. Et avec ce saké, qu'on distille, et ben on obtient du soju de riz en gros. Et j'ai découvert cette distillerie parce qu'elle fait un sochu, donc cet alcool japonais, mais avec des lits de saké, de riz, de Camargue. Voilà, donc avec du riz de Camargue, qui est une région française, ils ont fait du saké, et ce saké est distillé en champagne pour faire un sochu. Et je trouvais le concept rigolo, en plus ça fait vraiment écho à un terroir qui est vraiment très ancré en France, qui est la Camargue. La Camargue a quand même beaucoup de spécificités, et je trouvais que faire une eau de vie de riz de Camargue, c'est vraiment une très bonne idée. Après, on peut me dire, bah ouais, mais t'appelles ça Sochu, c'est japonais. Bah ouais, mais nous, on n'a pas de nom pour un alcool à base de riz, ou sinon, je l'ai pas à connaissance. Donc, Sochu, ça paraît évident un peu pour tout le monde, et comme ça fait une croisée des deux mondes. Donc, je considère que c'est fait en France, avec de la matière première française qui a été fabriquée, enfin, cultivée, récoltée et transformée que par des Français. Donc, c'est un alcool français, point barre. Voilà. Parce que sur Twitter, il y a plein de gens qui m'ont mis une shitstorm. Ça s'appelle Dose de France, hein, mais ça fait la promo des terroirs étrangers. Pas du tout. Je considère que c'est un produit qui est 100% français. En plus, ça a une particularité unique. C'est vraiment hyper original. Ça coûte pas très cher. Ça coûte 45 euros. Honnêtement, ça vaut le coup de tester. C'est un produit unique, quoi. On n'en trouve pas beaucoup, voire pas du tout. Et en général, quand on en a, c'est du japonais, alors que là, c'est du 100% français. Donc, si vous voulez en trouver, c'est dispo sur notre site, hein, demichelot.com, au prix de 45 euros. Et Sochu de l'hydrite Camargue. Et le deuxième produit. Attendez, je vais boire un petit coup d'eau parce que là, j'ai vraiment la gorge sèche. J'adore l'eau. Donc, le deuxième produit que j'ai sélectionné chez eux, c'est une vodka incandescence. C'est le nom qu'ils leur ont donné. Et alors, c'est une vodka qui est faite à base de raisin, de jus de raisin de la région, donc de Champagne. Avec les vignes qui sont cultivées dans la région de Champagne, ils ont fait du jus de raisin qu'ils ont fait fermenter et distiller pour faire cette vodka. Et franchement, moi de base, la vodka, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vraiment pas mon truc. J'ai souvent considéré que c'était un alcool un peu de seconde zone, si je puis dire. Enfin, après, je le considère toujours, hein. C'est pas comme du whisky, du rhum et tout. Mais disons que. Enfin, que je la fracassais vraiment très dur, quoi. Je l'ai goûté, mais je n'ai pas du tout pour ça. Et je l'ai trouvé très douce, très agréable, avec quand même quelques subtilités, quelques arômes intéressants, et une vraie identité quand même, qui est issue de son terroir aussi. J'ai été vraiment surpris au point où j'ai dit, bah, ça m'intéresse moi de la vendre. Et voilà, chose faite, désormais elle est dispo du coup sur mon site. Pas très cher en plus, 35 euros. Bon, comparé au vodka de merde industriel, vous allez me dire, mais Johan, c'est hyper cher, hein, 35 euros, alors qu'une Poliakov, ça coûte que dalle. D'ailleurs, je ne sais même pas combien ça coûte, parce que doit y avoir. Je cherche sur Internet en même temps. Poliakov. Ah oui, j'ai coupé Internet pour pas qu'on m'appelle. Merde. Bref, ça doit coûter quelque chose comme je passe 16-17 balles, parce que tu as quand même 7,03 € de douane. Il y a aussi la TVA. Donc, il faudrait peut-être qu'ils gagnent un petit peu leur vie. Donc, c'est deux fois plus cher, un peu plus de deux fois plus cher, mais c'est bon, c'est de la qualité, c'est fait en France, avec des matières premières qui sont quand même très nobles, issues d'un terroir sympa, qui est la Champagne. Donc, voilà, c'est 35 euros sur notre site. Et donc, je suis très fier de pouvoir distribuer cette distillerie Bonvalet. Il y en aura des prochaines qui arriveront. Normalement, nous aurons rapidement des Pinot des Charentes et des alcools qui ressemblent au Pinot des Charentes, mais un peu plus spéciaux, et des cognacs, tout ça issu de la même distillerie qu'il y a distillerie Pasquet. On attend de recevoir les palettes. Et on aura aussi du gin de la maison Hexagone. Voilà, donc il y a un gin classique, si je puis dire, un gin vieilli et un gin sans alcool. Un gin virgin gin, 0,0%. Parce que c'est dans l'air du temps, voilà, il faut faire du sans alcool, puis économiquement parlant, putain, la TVA est tellement avantageuse, c'est un délice. Et puis il y a quand même une vraie demande, les gens en veulent, donc je trouve ça sympa de laisser l'opportunité aux gens de pouvoir acheter du sans alcool. Ah, vous entendez les sirènes? Quelqu'un va à l'hôpital, voilà. J'espère que ça se passe bien pour lui, enfin que ça ira mieux. En tout cas, bon, on reprenons. Donc, il y aura un gin sans alcool. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'alcool sans alcool sur notre site, parce que autant faire du vin et de la bière sans alcool, je trouve que c'est vraiment faisable et que parfois c'est quand même assez bluffant, surtout au niveau de la bière. Autant les alcools forts sans alcool, à part le gin, pour l'instant, j'ai jamais goûté quelque chose de bon, quoi. Donc, je sais pas vraiment si je rajouterai d'autres alcools sans alcool, peut-être d'autres gins sans alcool, enfin bref, on verra. Mais en tout cas, sur le gin, il y aura une possibilité. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à la distribution. Donc oui, maintenant, vodka et soju de la maison Beauvallet dispo sur demichelot.com, en plus de mes marques à moi. Et vous pouvez vous faire plaisir. Donc on peut passer directement à la deuxième rubrique de la semaine, qui sont, enfin deuxième rubrique du podcast, pardon, qui sont trois recommandations de bouteilles de la semaine. Alors, il faut savoir que j'enregistre ce podcast à 11h, et à 8h du matin, j'avais écrit trois autres recommandations que ce que je vais vous recommander là. J'ai changé un peu au dernier moment parce que j'ai fait le récapitulatif de tout ce que j'ai goûté, et le but, c'est de vous faire des recos qui sont sympas et, comme j'ai expliqué dans l'introduction, aussi en termes de prix et d'accessibilité, qui sont vraiment accessibles pour que vous puissiez vous les procurer et en apprécier tout le goût et même pouvoir en racheter si jamais c'est pas très cher. Donc le premier alcool que je vous recommande cette semaine, toujours avec modération, hein. Je rappelle, je ferai un petit rappel à la fin de la rubrique parce que la recommandation, c'est pas bien du tout, hein. Loi Evin, attention, attention. Donc le premier, c'est le Birlou. Alors le Birlou, c'est une liqueur qui nous vient d'Auvergne et qui est faite, enfin ce sont des saveurs de pommes et de châtaignes. Donc c'est une liqueur qui mélange pommes et châtaignes. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas très forte en alcool, elle ne fait que 18 degrés, ce qui fait que du coup, elle n'est pas très chère, puisque en France, on est taxé sur les degrés d'alcool. Elle est à 22 euros, dans mes souvenirs, quand j'ai regardé là juste avant le podcast, pour 70 centilitres, ce qui vraiment est un prix très intéressant. Donc, comme je vous disais, elle a été inventée en Auvergne par un Auvergnat qui est passionné de saveurs locales, donc forcément. Il a fait ce qu'il avait sous la main et qui voulait combiner la pomme et la châtaigne, ce qui est, on le rappelle, une très très bonne idée. Franchement, c'est des saveurs que j'adore. J'ai déjà goûté des liqueurs de châtaigne. Moi, j'en ai plein chez moi, des whisky châtaigne aussi. C'est vraiment, je trouve, une saveur, la châtaigne, qui est très accessible, vraiment très bonne. Et mélangée à la pomme, franchement, je trouve ce combo merveilleux et je voulais vraiment vous parler de cet alcool-là, là, le Birlou, cette liqueur, parce que je pensais encore une fois que tout le monde connaissait ça et en fait, personne ne connaît. Vraiment, à chaque fois que j'en parle, je dis ouais, le Birlou et tout, personne connaît. Alors que c'est vraiment magnifique et ça coûte 20 balles. Voilà. Reprenons. Tatac, son nom vient probablement d'une contraction des mots bir, bière et loup. Pomme en loup qui voudrait dire pomme en patois local, donc en Auvergnat, donc bière pour bière pour bière et loup pour pomme, ce qui fait birlou. Tac tac tac. J'ai pris des notes avant, hein, c'est pour ça que je lis un petit peu. Donc sa texture est sirupeuse et de couleur ambrée, bon c'est normal parce que c'est une liqueur. Vous avez aussi un petit goût caramélisé, mais ça c'est encore une fois le sucre. Et ça donne le côté un petit peu, comment dire, pomme cuite, crème de châtaigne, etc. Donc c'est vraiment sympa. Alors là vient tout l'intérêt, et aussi pourquoi je voulais vous parler du Birlou, c'est sur sa manière de le consommer. Alors en fait, il faut savoir que Il y a énormément d'entre vous, vous connaissez le picon-bière. Donc c'est le fait de mettre du picon et de la bière dedans. Et ben moi, pendant pas mal d'années, je buvais des birlou-bières, mais surtout des birlou-cidre. Et j'aimerais que cette liqueur soit beaucoup plus connue, pour qu'il y en ait à beaucoup plus d'endroits, parce que c'est quand même assez difficile à trouver, je trouve, en dehors de l'Auvergne, ou des Auvergnats à Paris, mais ils n'en ont pas tous, très loin de là. Et parce que du birlou avec du cidre, putain, mais c'est hyper bon, quoi. C'est un délice. On se régale. Le moment, il est somptueux. Vous voyez cette petite sensation quand vous buvez un picon-bière, hein? Vous buvez les premières gorgées, c'est rafraîchissant. C'est un peu sucré, il y a ces arômes d'orange. Putain, vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Là, vous êtes relaxé. Vous dites bonne journée ou journée de merde. Peu importe, tu prends là, comme ça, en plus, une pinte, ça pèse lourd, là. Quand c'est lourd, c'est bien. Tu bois là deux, trois grandes gorgées goulayantes et ça fait du bien. Bah, le birlou cidre, c'est pareil. C'est putain de bon. Donc je vous le conseille comme ça, avec un peu de cidre. Et vous allez kiffer un arôme pomme-châtaigne sur du cidre ou heureux de la pomme. Bon, un cidre pas trop sucré, sinon vous allez avoir du sucre plein la tronche. Mais franchement, il faut que vous testiez ça. Et après, moi perso aussi, je peux l'utiliser en cuisine, notamment avec des desserts. Très bon. Donc voilà, première recommandation de la semaine. Le Birlou, BIRLOU, 22 balles, 18 degrés. Franchement, vous pouvez tester ou même l'acheter sur Internet. En fait, ce que je devrais faire, c'est en acheter quelques caisses avant. Je vous le recommande sur le podcast. Et comme ça, vous pouvez trouver l'alcool que je vous recommande sur demichelot.com. Ça, ce serait intelligent. Ça, ce serait du business bien construit. Mais comme je suis pas forcément le plus malin, je ne l'ai pas fait. Mais je le ferai peut-être sur les prochaines semaines. Il faut aussi que ma trésorerie me le permette, parce que comme je fais trois recommandations, il faut que j'achète beaucoup de cartons de trois références différentes. Donc pour ma trésorerie aille bien, il faut que vous achetiez sur demichelot.com. Et comme ça, après, vous pourrez racheter les recommandations sur demichelot.com. Putain, je vous donne en transparence le business plan. Quelle logique, quelle stratégie merveilleuse. Et c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Enfin bref, en tout cas pour l'instant, c'est pas dispo chez moi, mais peut-être un jour, surtout que vraiment moi j'aime beaucoup beaucoup cette liqueur. La deuxième recommandation que je voulais vous faire de la semaine, c'est un whisky, encore une fois, comme la semaine dernière j'ai recommandé un whisky, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup le whisky. Alors c'est un whisky beaucoup plus accessible que la dernière fois, il nous vient de la distillerie Bellevoix, enfin, si, c'est la marque. Bellevoix, c'est pas la distillerie de Bellevoix, c'est la distillerie de Berclou qui fait le whisky Bellevoix. Et donc c'est un whisky de malt, 100% français, c'est pas tourbé. Et donc c'est la, ils ont plusieurs whisky différents dans leur édition Bellevoix. Et celui que je vous recommande cette semaine, c'est le Violet, qui est édition prune. Alors c'est 70 centilitres, 43 degrés, et ça coûte 70 euros. Vous voyez, comparé au whisky que je vous ai recommandé la semaine dernière à 115 balles, on redescend un petit peu en prix. Après, c'est pas le même niveau et pas le même placement non plus, mais voilà. Donc ce whisky, le Bellevoix Prune, donc c'est un assemblage de trois malts différents qui viennent de trois distilleries différentes. C'est entre du 3 et 8 ans, il me semble. Donc, c'est les assemblages de whisky qui ont vieilli minimum 3 ans et maximum 8 ans. De toute façon, on ne peut pas mélanger avec moins de 3 ans, puisqu'il faut que ça vieillisse. Il faut que le whisky vieillisse 3 ans en fût de chêne minimum pour avoir le droit d'appeler ça whisky. Et donc, cet assemblage qui a vieilli en fût de chêne, il est ensuite affiné pendant 6 mois dans des fûts qui, avant, ont contenu des eaux-de-vie de prune. C'est pour ça qu'ils appellent ça Bellevoix prune. Donc il y a un petit finish de 6 mois dans les eaux de vie de prune et je trouve que ça se ressent vachement dans le whisky qu'ils ont à la fin. Et ça donne un côté déjà original, franchement sympathique. Honnêtement, c'est bien fait. Moi, j'avais fait une déguste de une verticale de tout leur Bellevoix. Je trouve que en termes de qualité-prix et d'originalité, c'était celui qui ressortait pas mal à mes yeux, puisqu'à 70 euros, ça reste accessible. En plus, ils ont changé leurs bouteilles, qui ont vraiment de la gueule. Je suis très jaloux. très jaloux de la beauté de leur bouteille. Donc franchement, c'est un beau produit pour 70 €. Voilà pourquoi je le recommande. Pareil, vous pouvez toujours pas le retrouver chez moi pour l'instant, mais sur Internet, vous le trouvez assez facilement. Donc Bellevue Prune, sympathique. La troisième recommandation. Donc là, on monte vraiment en originalité, puisque j'avais déjà recommandé sur mon Instagram cette liqueur, puisque ce serait une liqueur. Et je voulais en reparler parce que bah déjà, j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent depuis. Et je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. C'est une liqueur de tabac. Alors, liqueur de tabac périquée ou périque. Je ne sais pas comment on peut prononcer. Periqe. On va dire périquée. Elle est en 50 centilitres. Celle-ci, par contre, elle fait 31 degrés et elle coûte 45 €. C'est toujours relativement accessible. Donc, ah non, c'est PE un seul R. IQE. Et donc, la liqueur de tabac périque, en fait, c'est une boisson qui est élaborée à partir du tabac, variété périquée. Donc, il y a un tabac qui est considéré comme l'un des plus rares et précieux du monde. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça sympa de vous la recommander. Et en plus, ça réunit bien tous les défauts en même temps. Voilà, tabac et alcool dans la même bouteille, donc vraiment abominable. Sur le plan sanitaire, on a tout franchi, quoi. Toutes les lignes rouges ont été franchies, c'est infernal. Et donc ce tabac périquet, en fait, il pousse aux États-Unis, et plus précisément en Louisiane. Et donc il est réputé pour avoir des arômes très élégants, puissants, fruités, être vraiment j'avais fait un petit peu des recherches, c'était vraiment considéré comme le top niveau, si ce n'est vraiment le meilleur tabac du monde. Donc je trouvais ça vraiment très cool de le retrouver en liqueur, surtout que là vous allez vous dire, mais attends Johan, encore une fois, tu nous conseilles un truc qui n'est pas français, parce que dans les recommandations, je vous recommande que les trucs français, bien évidemment. Et en fait, cette liqueur, elle a été créée au début des années 2000 par un Américain, qui est spécialisé, lui, en fabrication d'absinthe, surtout, mais aussi de liqueur. Et la liqueur de tabac, en fait, elle n'est pas produite aux États-Unis, mais elle est produite à Saumur, donc en France, par la distillerie Combier, donc qui est très célèbre, le Combier, pour son triple sec, donc sa liqueur d'orange. Et en fait, c'est là-bas que j'avais trouvé, puisqu'une fois, je visitais Saumur, et j'étais allé visiter la distillerie Combier. Et au lieu d'acheter un produit, la marque Combier en partant, j'avais trouvé cette liqueur de tabac que j'avais achetée, j'avais aussi acheté une absinthe qui avait été pensée par ce même gars, là, Ted Bro. Et je crois qu'en fait, le patron de Combier et lui étaient très potes, et c'est pour ça que c'est produit là-bas, ou peut-être que je crois qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas le droit de le produire. Bref, en tout cas, c'est fait en France, avec de la matière première américaine, pour le coup. Mais c'est vraiment très original, on a la chance de pouvoir, du coup, avoir accès à un tel type de produit. Et ça vaut le détour. Alors c'est particulier, ça a vraiment le goût de tabac, et ça il faut savoir. Après c'est pas l'odeur clope froide du matin. Non, ça a le goût de la feuille de tabac, la plante. Et franchement ça vaut le détour. Après je pense que le boire uniquement sec c'est un petit peu écœurant, honnêtement, pour être honnête avec vous. Donc ça sert surtout pour faire des cocktails, mais ça donne une saveur unique que vous n'aurez jamais goûtée. Donc vraiment, même le boire seul, je vous garantis que si vous le testez, vous n'aurez jamais de votre vie goûté cette saveur. Donc c'est aussi pour ça que c'est très intéressant et c'est pour ça que je l'avais acheté. C'était pour découvrir une nouvelle palette aromatique que je n'avais jamais connue avant. Et donc, voilà, elle est macérée puis redistillée et on aboutit à cette liqueur. Je pense qu'on a fait le tour des trois recommandations de la semaine. Alors, j'ai l'impression d'avoir été peut-être un peu expéditif, mais je veux pas non plus en rajouter des tonnes et des tonnes pour parler pour rien, quoi. Donc, vous avez les informations de base. Donc, reprenons. Birlou, donc liqueur pomme-châtaigne d'Auvergne, qui a été inventé en Auvergne. 18 degrés, 20 balles. Je vous conseille de le tester avec du cidre. Ensuite, on a le whisky Bellevue. Édition Prune, donc c'est la bouteille violette, qui est un whisky mélange entre 3 et 8 ans, 100% malt, donc les 100% malt français. Donc c'est des orges maltées qui viennent de trois distilleries différentes en France. et qui a connu un finish de 6 mois dans des fûts qui avant contenaient des eaux de vie de prune. Donc il y a vraiment ce petit goût prune dans ce whisky qui est très intéressant. Et troisième recommandation de la semaine, une liqueur de tabac périqué, tabac américain, mais liqueur fabriquée à Saumur en France. Et une saveur unique que selon moi vous n'aurez jamais vue ou jamais connue dans votre vie et qui est intéressante de découvrir. Voilà. Je profite de la fin de ces trois recommandations pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Hein, toujours. Rappelez-vous ça. Hein. Faut vraiment s'en rappeler. J'ai pas envie que il m'arrive des problèmes. Soyez modérés dans la vie. Soyez équilibrés. Le bonheur est dans l'équilibre. Passons à la rubrique quête culinaire de la semaine. Je pense que cette rubrique va être longue à mettre en place pour que les gens y participent ou vous y participiez, mais j'ai vraiment envie de la développer parce que je la trouve cool. En fait, je trouve que c'est une putain d'idée que j'ai eue. Je trouve que c'est une idée de génie, en toute modestie, et j'aimerais qu'on la mette en place. Parce qu'en fait, je me réfléchissais à me dire comment je peux faire découvrir aux gens, et moi-même aussi en parallèle, découvrir des trucs sympas de la gastronomie française. Et ce concept-là, là, de quête culinaire de la semaine, je me suis dit, bah, je propose quelque chose que j'ai peut-être même moi pas goûté ou goûté il y a hyper longtemps. On a une semaine pour le tester, et ensuite, on passe à autre chose. Bon, il y a un seul problème à ça. C'est le fait que vous ne puissiez pas me répondre. Ce podcast est une dictature, je suis le seul à parler, vous écoutez en fait. Donc vous ne pouvez pas me répondre, donc vous ne pouvez pas me donner votre avis sur la quête culinaire de la semaine dernière, par exemple. Ce que je vous encourage à faire, en fait, c'est de prendre en photo. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai recommandé de tester le Saint-Marcellin, qui est un fromage fait dans la ville de Saint-Marcellin, fromage de vache. On a appris quelque chose, c'est hyper cool. Voilà, on a débloqué un nouveau point culturel et sensoriel de la gastronomie française ensemble. Si certains d'entre vous l'ont goûté, l'ont acheté, bam, vous mettez une petite story sur Instagram en me taguant quête culinaire de la semaine avec la photo de votre Saint-Marcellin ou de votre tronche en train de bouffer du Saint-Marcellin. Je repartage et voilà, on crée une petite dynamique, c'est ça qui est intéressant. Ou vous m'envoyez un DM si vous êtes timide pour me dire que vous avez goûté et tout. Ce serait cool, ouais, j'aimerais bien voir que des gens testent et appliquent cette quête culinaire de la semaine. Le truc étant que la semaine dernière, je vous ai recommandé du coup de tester le Saint-Marcellin. Mais moi, je l'avais déjà goûté. Bon, déjà, je l'avais déjà goûté dans ma vie, mais je l'avais abondamment goûté juste avant de vous le recommander, puisque j'en ai bouffé 4 ou 5 fois de suite à Lyon. Donc cette semaine, je me suis donner une autre manière de travailler pour proposer quelque chose que je n'ai potentiellement pas goûté, ou goûté il y a longtemps, ou déjà goûté, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, ou que c'était fait comme ça. Voilà. Donc en fait, j'ai juste demandé à ChatGPT de me sortir un plat, ou un fromage, ou un dessert, ou une pâtisserie, ou quoi que ce soit d'original de la gastronomie française. Et je le lance et je vois ce qu'il me propose. Alors, des fois, il me propose des trucs pas originaux du tout. Donc, je lui dis, non, vraiment, cherche-moi un truc original ou un nom qui est très peu connu. Donc, cette semaine, ChatGPT m'a sorti de tester la flag. Non, je reprends. ChatGPT m'a dit de tester la flognarde. Flognarde. La flognarde. Alors, attendez, parce que dans ma tête, ça s'appelait pas comme ça. Je vais quand même revérifier vite fait. Vite fait. Alors, merde, non, j'ai toujours pas Internet. Oh, putain. Alors, attendez, je vais check sur mon téléphone et je vous dis ça tout de suite. Mais, si ça s'appelait. Parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, ça s'appelait la flagognarde. Mais je suis potentiellement extrêmement stupide. Hein. Flognarde. Alors. ChatGPT me. Alors, Google me dit bien Flowniard, mais Flau. Ah ouais, après les sites de recettes de cuisine, Flo. Donc c'est ChatGPT qui avait raison. Donc la Flowniard, Flognarde. Donc c'est un dessert qui est originaire du Limousin. Alors, on reste dans le Limousin, dans ma zone cette semaine. Et de l'Auvergne aussi. Et qui en fait assez proche du clafoutis, puisque c'est tout simplement un clafoutis, mais avec d'autres fruits que les cerises. Et en général, on utilise de la pomme, parce que dans le Limousin, il y a plein de pommes. Donc, Je trouvais que cette recommandation de ChatGPT plutôt cool, parce que c'est assez facile à faire et qui, selon moi, le clafoutis est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dessert français. Sauf que le problème, bah, c'est les cerises. C'est giga casse-couille à bouffer, en fait, parce que tu as des pépins, tu es là, au milieu de tout le monde, à cracher tes pépins dans ton assiette, c'est très relou. Et donc, je voulais tester en fait, le fait qu'ils proposent aux pommes, donc ça s'appelle une flognarde, puisqu'il n'y a pas de cerises. Flognarde aux pommes, voilà. Quête culinaire de la semaine, vous pouvez taper sur Google, j'ai vu, il y a vraiment beaucoup de recettes. Je m'aperçois que ma mère, en fait, elle m'en a déjà fait plein de fois. C'est giga bon, vraiment. Mais je vais m'employer à en refaire un. Et en plus, vous pouvez rajouter un petit trait de vanille ou de rhum, ou même de rhum arrangé vanille, si vous avez été quelqu'un chaud comme moi et que vous en avez tout prêt à la maison, pour donner un petit peu un goût différent. Voilà, c'est un dessert simple, rustique, hyper bon. Je vous recommande de le servir un petit peu chaud, je pense que c'est très bon. Alors après, ce foutre de ChatGPT a conseillé de le servir avec une glace vanille, mais non, mais c'est comme la tarte tatin. La glace vanille, c'est bon, on kiffe tous, on se régale, voilà. On fait nos gros tas, on adore ça, il y a plein de sucre. Mais je trouve qu'avec de la crème fraîche, c'est quand même meilleur. Donc je vous conseille de la servir tiède avec une petite cuillère de crème fraîche là. Mama, vous allez vous régaler. Donc, allez, partez à la quête de la flognarde, quête culinaire de la semaine. Cuisinez-la. Faites-moi une petite photo en story. Je la partage. Moi aussi, je vais le faire. Regoutez ça. J'ai vu, il y a la recette, elle est sur cuisineaz.com. Il y a 76 avis, 4,9. Donc, c'est forcément une masterclass qui a été recommandée par ChatGPT cette semaine. Reconnue par la communauté comme un énorme banger. Donc, il faut absolument qu'on teste ça en groupe. Et comme ça, on découvre Saint-Marcellin, Flognard, la semaine d'après, une nouvelle chose. Putain, au bout d'un an, en fait, 52 semaines, 52 podcasts, on va tous devenir des chefs cuisiniers de haut rang avec une connaissance de la gastronomie française hyper affûtée, en fait. Donc, je trouve que cette rubrique est sympa, mais je sais qu'il va falloir le temps de la mettre en place et que les gens, enfin que vous en écoutiez pas mal pour décider de vous lancer, machin, et de partir à la quête culinaire de la semaine. Mais faites-le, vous allez vous régaler. En plus, c'est un prétexte pour inviter des gens chez soi, boire un petit coup de bière loup cidre et bouffer sa flognarde. Enfin, c'est magnifique, tout marche en synergie, quoi. C'est vraiment le podcast numéro un de la gastronomie française, en fait. Avant de passer à la dernière rubrique, enfin l'avant-dernière, puisque du coup j'ai rajouté les questions maintenant, je bois un petit coup d'eau. Ah, c'est important, l'eau. Il n'y a pas d'eau sur demichelot.com, je rappelle. Donc, recommandation de restaurant de la semaine. Alors, là, je vais aller un petit peu. Alors, je vais aller à moitié à contre-courant de ce que je peux avoir l'habitude de recommander. En fait, cette semaine, à la fin de la semaine, là, dimanche, c'est mon anniversaire. Donc, je vais avoir 29 ans, plus que un an avant la chute céleste vers les abysses de la vieillesse. Et en fait, pour mon anniversaire, j'ai l'habitude d'aller dans mon restaurant préféré en termes de goût. Pour l'ambiance et tout, c'est pas du tout mon restaurant préféré, mais à chaque fois que j'y vais, je trouve ça tellement putain de bon. Que j'adore y aller et à chaque fois j'y vais. Ce restaurant, il est à Paris et ça s'appelle Gigi Beaumarchais. Alors, deux fois la lettre J et ensuite Beaumarchais, parce que je crois que c'est boulevard Beaumarchais. Il me semble que c'est pas trop loin de la Bastille. Et en fait, c'est un concept de restaurant qui est assez courant hein, désormais, qui sont des plats à l'aveugle. Plats à l'aveugle, c'est pas vous bouffer dans le noir comme un aveugle. Hein. Voilà, c'est plat, tu sais pas ce que tu vas manger. Donc c'est pour ça, comme tu vois pas de carte et tu vois pas ce que tu vas manger, à l'avance en tout cas, c'est pour ça que je dis plat à l'aveugle. Donc vous avez 5 services, je crois. Déjà, il faut savoir que les trucs à l'aveugle, c'est vraiment un concept que j'adore. Parce que moi, j'aime tout, je mange vraiment de tout, j'ai pas d'allergie et tout. Donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses et manger des trucs que je connais pas. Et donc le fait de ne pas choisir sur une carte, moi, ça m'arrange. Comme ça, on m'apporte la bouffe et j'ai plus qu'à becter. Et on m'explique aussi à chaque fois, parce que bien sûr, ils t'apportent des plats qui sont déjà très techniques, très travaillés, visuellement et gustativement très beaux, très bons. Et en plus, le serveur t'explique. Et aussi, un autre avantage de ce restaurant, c'est qu'ils font pas mal de vins différents et en plus, ils en font au pichet. Donc, tu peux tester différents vins, tu peux boire au verre, au pichet, à la bouteille. Et sur des restaurants de ce standing-là, c'est vraiment très très rare. Et donc, ils font des bons vins et au pichet. Donc voilà, restaurant absolument parfait, 5 services, je crois que ça coûte 60 ou 65 € par personne. Franchement, pour le niveau culinaire et par rapport au prix, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est en deux services, il faut réserver bien à l'avance. Si vous réservez au premier service, au bout de 2 heures ou 1 heure et demie, ils vont vous dire de dégager pour laisser la place au service suivant, ce qui arrive souvent dans les restaurants qui sont très populaires. Mais franchement, je vous recommande. Hein. Moi, je prends toujours deuxième service, je viens manger très tard. Comme ça, je prends le temps. Et à chaque fois, je me régale. C'est vraiment un restaurant qui est incroyable. Donc, je vous le recommande si vous voulez emmener votre compagne ou votre compagnon faire votre deuxième date. Vous voulez vraiment épater quelqu'un, inviter votre mère, que sais-je, vraiment, si vous voulez régaler quelqu'un. Je recommande, je mets ma réputation en jeu sur ce restaurant, Gigi Beaumarchais, vraiment très très bon. J'ai quand même une deuxième recommandation pour vous, pour ceux qui veulent des trucs un peu plus bourrins. Cette semaine, ce week-end, j'étais en Bretagne à côté de Guérande, donc pas loin de Nantes. Alors je ne sais pas si certains vont me dire, ouais, c'est pas la Bretagne, machin. Bref, j'étais à côté de Guérande. Et en revenant, j'ai passé une nuit à Nantes. Pour le lendemain matin, aller bouffer dans un resto qu'on m'avait conseillé, pardon, aller déjeuner dans un resto qu'on m'avait conseillé, qui s'appelle Jean de la Queue. Jean de la Queue. Le nom est original. Et en fait, c'est un resto qui est vachement grand, qui fait beaucoup de viande cuit au feu de cheminée. Et il y a vraiment une grande variété de produits locaux et ceux qui aiment bien les restaurants bistrot, brasserie, comme moi, c'est vraiment un lieu où vous allez vous régaler. Moi perso, en entrée, j'ai pris. Je vous ai dit, moi j'aime tout et je veux toujours tester des nouvelles choses, donc c'est pour ça que j'aime bien les plats à l'aveugle. Par exemple, en entrée, j'ai goûté des anguilles en persillade. Donc, j'avais jamais goûté d'anguilles de ma vie, donc là c'était l'occasion. C'était hyper bon, franchement, je le recommande. Alors c'est un peu cher, mais bon, voilà, je voulais goûter. Donc, anguille en persillade, c'était vraiment très très bon. Et en plat, j'ai pris trio de saucisses. Donc, tu avais un boudin noir, miel, gingembre, muscadet, avec une saucisse au muscadet aussi, et une andouillette 5A, andouillette de 3, 5A. Donc, les best des best. Voilà, donc il te sert en fait trois saucisses différentes. À côté, j'avais des pommes grenailles qui était somptueuse, parce que souvent, des fois, je trouve que ça peut manquer de goût ou une cuisson particulière, enfin, pas top, sur les pommes grenailles. Là, c'était vraiment sublime. Il y avait aussi des frites sublimes. Ils font des épaules de cochon de lait, des pièces du boucher, une côte de bœuf, je crois, elle coûte 60 €. Putain, quand t'es habitué à payer 110 balles à Paris, 60 € la côte de bœuf cuite au feu de cheminée, tu te régales, quoi. Donc, plein de pièces de bœuf, plein de pièces de porc aussi, il y a aussi des poissons, des plats qui sont originaux, vraiment bien faits, parce que c'est pas juste, ouais, il y a plein de trucs à la carte et c'est bourrin et de la barbaque comme ça, non, non, ça reste quand même un cadre qui est très élégant, il y a une des pièces qui est une ancienne ferme, en tout cas ça ressemblait à ça, donc qui est vraiment hyper belle, hyper chaleureuse, il y a une grande terrasse pour l'été, c'est magnifique. Et cuit au feu de cheminée, les serveurs et tout sont bien habillés. Il y a des grandes, comment dire, caves à vin avec des bouteilles de tous les niveaux, mais ils ont quand même des super quilles. Donc franchement, c'est un restaurant qui est pas qui a de la bonne barbaque, bonne quantité et tout, mais aussi qui a un très bon standing et un très bon niveau de cuisine. Donc ça réunit le meilleur des deux mondes et franchement, j'ai adoré. C'est deux ou trois personnes qui m'ont recommandé quand j'ai demandé des restos vers Nantes. Donc j'y suis allé en leur faisant confiance. Et bah j'ai tellement kiffé que maintenant moi je vous le recommande et vous pouvez y aller. Donc Jean de la Queue, à côté de Nantes. J'ai pas la ville exacte, c'est à 20 minutes, 25 minutes de Nantes. Franchement, c'était très bon. Je le remets sur mon Mapster Dose de France ou Alcool de France. Donc c'est l'appli où je mets tous les restaurants que je recommande sur une carte de la France. Donc voilà, Gigi Beaumarchais, Jean de la Queue, en recommandation de la semaine. Vous avez vu, j'ai fait un Paris et un ailleurs. Donc à chaque fois, on me dit, ouais, tu fais que à Paris. Bah, parce que c'est là que j'habite, en fait. Mais bon, là, je recommande ailleurs. J'ai fait exprès, hein. J'ai dit, ouais, je reste un jour à Nantes. Le lendemain, il faut que je bouffe dans un truc près d'ici. Et si c'est bon, je le recommande au podcast. Donc j'ai donné de mon temps, de ma matinée, pour aller à un endroit spécial et pouvoir vous en parler. Donc tous ceux qui habitent dans le coin ou qui passent dans le coin, vous allez bouffer à Jean de la Queue. J'en ai rien à foutre. Et en plus, vous allez vous régaler. Voilà. Donc je vous propose maintenant de passer à la dernière rubrique de ce podcast. Et on en terminera là avec les questions qu'on va poser sur Instagram. Donc chaque semaine, je mettrai un encart en story Instagram pour des questions que vous voulez me poser et auxquelles je répondrai au podcast. Enfin, je répondrai pas forcément à toutes, mais en tout cas, je répondrai à certaines d'entre elles. Et ça peut être des questions sur mon entreprise, des questions un peu plus générales, des questions plus personnelles. Enfin, de toute façon, je sélectionnerai, mais vous pouvez poser n'importe quel type de questions et je pourrai répondre à certaines d'entre elles avec plaisir. Donc la première question de cette semaine, c'est est-ce que tu prévois de faire une nouvelle liqueur et pourquoi pas faire une liqueur d'aubépine ? Alors est-ce que je prévois de faire des nouvelles liqueurs ? Cette année, j'aimerais bien sortir entre 1 et 4 nouveaux goûts de liqueurs sur la marque de Michelot, du coup. Donc oui, c'est prévu. Pour l'instant, je dois régler d'autres soucis, donc je ne peux pas vous certifier qu'une date de sortie, etc. J'aurais bien aimé en sortir très rapidement cette année, mais malheureusement, ça se passe pas toujours comme on veut. On a des problèmes externes qui nous tombent dessus et qu'il faut gérer en priorité. Donc on a déjà 4 goûts pour l'instant qui sont la gentiane, le genépi, la verveine et la menthe. J'aimerais bien en rajouter 4. Alors, est-ce que j'arriverai à tous les faire cette année ? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'en ai déjà 4 en tête bien préfaits. Et dans ces 4-là, il n'y a pas la liqueur d'aubépine. Et je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Parce que le but de Demichelot, c'était de faire des liqueurs d'autrefois que buvaient nos grands-parents, qui sont des liqueurs très ancrés dans des terroirs, dans l'histoire de chaque région, de les moderniser un petit peu, en faire des recettes un peu plus élégantes, plus fines, et de les reproposer à un public plus large pour qu'elles sortent juste de leur région et qu'elles soient consommées à échelle plus nationale, voire internationale, puisque nous exportons au Québec et nos liqueurs marchent très bien là-bas. Et donc en faisant ça, il y a deux facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, c'est donc de faire une liqueur qui respecte ces règles-là, liqueur d'autrefois, mais il faut aussi le comprendre dans une réalité de marché, parce que c'est très bien de faire une liqueur d'autrefois, mais il faut que ça se vende. Parce qu'en fait, si tu en fais une et que tu respectes juste en disant « bah voilà, j'ai fait une liqueur de niche que pouvaient boire d'autres gens, mais j'en vends zéro », bon, bah, en fait, la boîte, elle s'effondre et tu fais plus rien. Donc la liqueur d'aubépine, bah, ça pourrait être très, très sympa. C'est un arbuste qui est méconnu, qui peut donner des saveurs originales. Mais moi, mon but, c'est pas d'aller dans le plus original possible, de faire tout et n'importe quoi comme liqueur, parce qu'on m'a déjà demandé, ouais, tu peux faire des liqueurs de racines d'angélique, des liqueurs de je sais pas quoi. Oui, je pourrais, bien sûr que je pourrais, on pourrait faire ça rapidement. Mais est-ce que ça va se vendre ? C'est ça le problème aussi. Il faut quand même avoir une certaine réalité économique, parce que entretenir celle qu'on a déjà faite, enfin, pour entretenir la liqueur en elle-même, il faut pouvoir la vendre, sinon elle disparaît automatiquement. Et là, je pense que, bah, par exemple, sur la gentiane, alors la gentiane, c'était très risqué, mais par exemple, sur le genépi et la verveine, c'est des liqueurs que les gens ne boivent plus, mais qui ont quand même un nom. Par exemple, pour la verveine, tout le monde connaît le nom. Pour le genépi, ça évoque l'univers du ski, de la montagne et tout. Beaucoup de gens quand même connaissent son nom, mais c'est des liqueurs qu'ils ne boivent plus, mais je sais qu'il y a possibilité qu'ils s'y remettent, qu'ils en reboivent, et donc il y a quand même une brèche économique. Liqueur d'aubépine, ah, à part me faire kiffer moi-même, en fait, je sais très bien comment ça va finir, ce genre de truc. C'est, tu fais une liqueur d'aubépine, et les seuls mecs qui connaissent et qui voudraient acheter, ils vont te dire « Ah non, mais moi, mec, je le cueille moi-même, je fais moi-même ma propre liqueur, et je vais pas t'en acheter une alors que je le fais pour 3,50€ chez moi. » Ah, donc les seuls mecs à qui je pourrais la vendre parce qu'ils se connaissent, en fait, c'est parce qu'ils le font chez eux. Donc, bah ouais, peut-être je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas de marché, ou du moins trop compliqué à aller chercher, qui serait quelque chose de niche. Donc, à part peut-être faire un jour une édition limitée un peu rigolote, ce que j'envisagerais et que j'ai déjà envisagé de faire pour pas mal de liqueurs de plantes, mais qui serait uniquement en édition limitée, parce que au-delà des 100-200 bouteilles qu'on ferait en édition limitée, je pense que personne nous en achètera, tout simplement. Donc ça n'a aucun intérêt économique. Et ça tuera le but premier de la boîte, puisque ça tuera la boîte entièrement, en fait. Voilà. Et la deuxième question, c'est quel est ton avis sur la chartreuse? Alors ça, on me le demande vraiment hyper souvent. Mon avis sur la chartreuse, bah moi j'aime bien, forcément. Je suis arrivé aussi dans les liqueurs de plantes par eux. L'histoire autour de la chartreuse est incroyable. Elle est vraiment lunaire, le côté des moines et tout. Enfin, les gars n'ont pas besoin de faire un marketing, tout simplement parce que, ou un storytelling, tout simplement parce que leur histoire est un storytelling absolument démentiel. Après, la boisson en elle-même, elle est sympa, mais par exemple, la verte, enfin la verte et la jaune, moi je trouve ça trop sucré, donc un peu écœurant. Quand tu bois en digestif et que tu as mangé un dessert au resto, tu as du sucre plein la bouche, donc c'est. T'as pas envie de prendre deux verres, même si ça reste très très bon, hein, vraiment. C'est juste. Moi, si je pouvais apporter quelque chose ou émettre une critique, ce serait de faire quelque chose de moins sucré. Ensuite, la verte, elle est à 55 degrés, je pense que c'est quand même une barrière pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de volume qui passe, notamment outre-Atlantique, parce que c'est dans les bases de beaucoup de cocktails très populaires. Mais en sec comme ça, avec l'évolution des tendances, les gens veulent des trucs moins forts en alcool, moins sucrés. Et là, il réunit deux défauts qui sont très haute teneur en alcool et très haute teneur en sucre. Et donc ça, c'est une première petite critique que je pourrais émettre. Et la deuxième critique, mais qui n'a rien à voir avec la société de Chartreuse Diffusion ou les moines chartreux en eux-mêmes, c'est le côté démentiel de la spéculation qui est arrivée autour du marché secondaire, du marché d'occasion, enfin, des reventes, quoi, des enchères, avec des bouteilles qui partent vraiment à des prix complètement fous pour des changements ou des caractéristiques, particularités qui sont pas stratosphériques non plus. Donc le fait que les moines chartreux aient annoncé plafonner leur production et ne pas aller au-delà de, je crois que c'est 1,6 million de bouteilles par an, a fait qu'il y a eu un effet de rareté et donc une explosion des prix aux enchères. Donc maintenant, c'est difficile d'en avoir. Les restaurants sont sous allocation et vident leur stock bien avant la fin de l'année. Les bouteilles aux enchères valent un bras. Donc c'est devenu un petit peu malgré elle une boisson élitiste. Donc forcément, moi j'en bois beaucoup moins parce que bah, t'en trouves moins, c'est plus cher. Puis après j'en ai bu des centaines de fois, donc j'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, mais sinon, globalement, mon avis sur la chartreuse est plutôt positif. C'est juste que j'émets quelques critiques puisqu'on me demande mon avis. Hein. Je ne veux pas juste dire ouais, c'est super bien, blablabla. Ça n'a aucun intérêt sinon. Après, je préfère les liqueurs de Michelot dispo sur demichelot.com, l'abus d'alcool que tu as consommé Je reprends. Je préfère les liqueurs de Michelot disponibles sur demichelot.com, mais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. Attention. Attention. La mort vous guette. Ceci est du poison. Vous allez empoisonné. Bref, fin de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Et faites une flowniarde et postez-la en story Instagram. Et comme ça, on continue et on avance sur les quêtes culinaires de la semaine. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.